Benjamin Biard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue au CRISP, chargé de cours à l'UC Louvain. Alors, ce 11 juillet, c'est la fête de la communauté flamande. Et Théo Franken, invité ce matin sur RTL, a déclaré qu'il ouvrirait le champagne en cas de disparition de la Belgique. Alors, pour commencer, Benjamin Biard, pure provocation?
Bon, peut-être bien, mais en même temps, c'est le discours qu'il a toujours tenu d'une certaine manière. Ça reste un cadre, un ancien secrétaire d'État, un parlementaire aujourd'hui, membre d'un parti, la NVA, qui fait de l'indépendance de la Flandre sa priorité numéro une, dans ce sens que ça figure toujours au niveau de l'article premier des statuts du programme de la NVA. Donc ce n'est pas étonnant, en ce sens que c'est un parti qui s'est développé le long du clivage communautaire, qui est en quelque sorte un relais du mouvement, pas le seul, mais du mouvement flamand. Et donc, en ce sens, il n'est pas étonnant qu'une personnalité comme Théo Franken, effectivement, qui se démarque particulièrement bien sur cette thématique, entre autres, puisse rappeler effectivement le sens de l'engagement de la NVA.
Hormis la NVA et quelques partis de droite, est-ce un discours tenu par des partis historiquement plus modérés sur la question dans le nord du pays?
Alors effectivement, on retrouve ce type de discours aussi au niveau d'autres formations politiques. On le retrouve aussi au sein de l'extrême droite, le Vlaams Belang. Je le rappelle très brièvement parce que c'est une formation politique qui aujourd'hui dans les sondages semble tirer son épingle du jeu et figure au sommet de la hiérarchie des partis, en termes en tout cas d'intention de vote. Au niveau d'autres formations politiques, on a pu observer des positionnements qui allaient dans le sens de futures réformes de l'État visant à toujours approfondir le fédéralisme tel qu'on le connaît, voire appeler au confédéralisme, avec parfois une expression malheureuse au sens du droit, puisque le confédéralisme stricto sensu signifie la séparation, tout simplement, ou la scission de l'État, et puis ensuite le partage de certaines compétences en commun. Alors on a eu au tournant des années 2000 l'OpenVLD qui a tenu ce discours, jusqu'il y a quelques années, c'est sous Gwendoline Rutten que l'OpenVLD a enterré cette perspective confédérale telle qu'il l'appelait. Et puis le CDNV aussi, lorsque le CVP, après l'échec électoral de 1999, s'est transformé, s'est rebaptisé le CDNV, il a opté lui aussi clairement pour une option confédérale, et je cite à nouveau l'objectif tel qu'était le sien. Donc on retrouve également des formations plus traditionnelles qui ont tenté de prendre position le long de ce clivage. On comprend pourquoi, si on se souvient qu'au tournant des années 2000, la question communautaire était encore assez vive dans le débat public, on était à la veille d'une cinquième réforme de l'État particulièrement, il a été nécessaire pour certaines formations politiques d'élargir leur base électorale, ou en tout cas d'endiguer certaines fuites, certains mouvements de voix vers d'autres formations politiques, notamment en se positionnant plus clairement le long de certains autres clivages, et notamment le clivage communautaire.
Théo Franken a estimé que la population flamande était une nation à part entière. Il a raison, dans la situation actuelle, la Flandre peut vivre indépendamment du reste du pays?
Alors, c'est un propos qu'on a souvent entendu. Bart De Wever a souvent indiqué que la Belgique n'était pas une démocratie, mais l'addition de deux démocraties distinctes. Donc là aussi, il reste finalement dans le message tel que le parti essaie de le diffuser ou perpétue en termes de communication. Alors, est-ce qu'il a raison ou pas? Je ne sais pas. Ça relève d'un positionnement politique et subjectif à proprement parler. Toujours est-il qu'il est toujours possible pour une petite entité de survivre. Néanmoins, ça dépend dans quelles conditions, ça dépend comment cette indépendance se ferait. Théo Franken rappelle lui-même dans l'interview de la Libre Belgique du 11 juillet qu'il n'est pas un révolutionnaire, qu'il veut faire les choses de manière ordonnée, pas brusque. Il essaye ici de se distinguer, de prendre distance face à certaines formations politiques également indépendantistes, mais beaucoup plus radicales. Pensons au Vlaams Belang, bien entendu. On voit qu'il y a effectivement des velléités indépendantistes, mais avec des chemins sans doute différents qui peuvent être empruntés.
Ce discours indépendantiste, c'est un peu une vieille rengaine, on l'entend depuis longtemps, mais aujourd'hui, en 2023, est-ce vraiment possible?
Alors, aujourd'hui, en tout cas en 2023, c'est extrêmement compliqué de pouvoir réformer l'État, en ce sens qu'il y a deux grandes voies classiques pour réformer l'État. D'une part, l'adoption ou la modification d'une loi spéciale, ce qui nécessite une majorité des deux tiers, mais également une majorité au sein de chaque groupe linguistique et néerlandais et français, tant à la Chambre qu'au Sénat, première piste, ou deuxième piste, une modification de la Constitution, qui elle aussi nécessite une majorité renforcée des deux tiers, à nouveau, tant à la Chambre qu'au Sénat. Ça veut dire que nous n'avons pas vraisemblablement un soutien suffisamment fort pour une réforme de l'État, mais ça nécessite aussi, si on opte pour une réforme de la Constitution, que les articles qui seraient soumis à révision devraient avoir été ouverts durant la législature précédente. Et on sait qu'il y a très peu d'articles au niveau de la Constitution, particulièrement sur des questions d'ordre institutionnel qui pourraient faire l'objet d'une réforme de l'État, qui sont ouverts, ce qui implique plutôt qu'une réforme de l'État ne pourrait au mieux voir le jour que durant la prochaine législature, une fois que, éventuellement, les articles nécessaires auront été ouverts à révision à la fin de cette législature.
Vous parlez de réforme de l'État. Au final, au-delà d'indépendance que la NVA veut principalement, c'est une réforme en profondeur du fonctionnement de l'État, non ?
Alors effectivement, donc la NVA veut d'abord et avant tout l'indépendance, mais à défaut d'obtenir l'indépendance, elle souhaite effectivement une réforme en profondeur, c'est-à-dire notamment de nouveaux transferts de compétences vers les régions et communautés, par exemple en matière de justice, par exemple en matière de sécurité sociale. Ce sont des thématiques sur lesquelles la NVA se positionne aussi très clairement, notamment pour exercer une certaine forme de pression dans le cadre de négociations avec d'autres acteurs, qu'ils soient de droite ou de gauche.
La NVA est le premier parti dans le nord du pays, c'est donc un discours qui séduit les électeurs.
Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles les électrices et les électeurs votent pour la NVA. Il y a effectivement une question d'ordre communautaire, institutionnel. La NVA se distingue dans le paysage partisan par son positionnement en la matière. Néanmoins, ce n'est pas le seul enjeu sur lequel la NVA se positionne. La NVA arrive aussi à attirer un électorat qui est attiré par ses positionnements plus droitiers sur le plan socio-économique, typiquement. C'est-à-dire un autre clivage, une autre ligne de tension au sein de la société sur lequel la NVA se positionne particulièrement bien. Troisième ligne de clivage peut-être, c'est ce qui ressort des questions peut-être migratoires, identitaires, je dirais de manière générale le conservatisme culturel également que défend la NVA et par rapport auquel certains peuvent se retrouver. Donc on voit qu'il y a plusieurs raisons de voter la NVA. Si on regarde clairement les chiffres qui sont disponibles, on voit que les Flamands qui souhaitent véritablement l'indépendance de la Flandre restent une petite minorité.
Pour terminer, Benjamin Billard, dans un peu moins d'un an, les Belges seront appelés aux urnes. Quelles sont les prédictions au nord du pays ?
Alors, prédictions, je ne sais pas si on peut vraiment avoir la prétention d'en émettre dans le sens où les choses en Belgique peuvent vite évoluer, vite changer, et puis il reste encore 11 mois d'ici le scrutin du 9 juin. Néanmoins, on a des sondages qui ont plutôt vocation à prendre le pouls en un temps donné de l'état de l'opinion, en Flandre particulièrement. Il y en a encore eu un il y a quelques semaines qui a mis en évidence que, effectivement, les forces indépendantistes, d'abord le Vlaams Belang, qui se maintient en termes d'intention de vote en tête de la hiérarchie des partis, suivi de la NVA, et puis, surprise par rapport au scrutin de 2019, le Parti socialiste flamand, ou social-démocrate à tout le moins, Voreut, tiré par Conor Rousseau, qui a su imprimer une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique au sein de cette formation politique, qui semble récupérer du poil de la bête, souvenons-nous, après un scrutin qui a été particulièrement délicat pour le parti, puisqu'il avait obtenu le pire score de son histoire le 26 mai 2019. Donc on voit ici le trio de tête, je dirais, mais clairement, ce qui ressort, ce sont ces deux formations politiques de droite et d'extrême droite qui semblent se dégager avec un programme, l'une et l'autre, indépendantiste.
Benjamin Billard, vous êtes politologue au CRISP, chargé de cours à l'UC Louvain. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec plaisir.